Alors, on appréhende aujourd'hui les âges d'évolution. Faire un rapide rappel de ce qu'on avait appréhendé dans le premier cours qui était sur l'absolu. Il s'agit pour chacun d'entre nous d'avoir une bonne conscience, bonne compréhension du processus fondamental, à savoir que l'absolu qui n'est pas un être mais l'être T, donc n'est pas une personne, de ce que l'on peut en appréhender puisque c'est inaccessible, mais on peut quand même approcher une partie de sa conscience absolue. Donc, premier postulat, il n'y a aucune gloire à être cela. Pourquoi je répète ça? Eh bien, simplement parce que si vous avez bien en tête en permanence les postulats, vous allez voir que, en fait, ils sont les agents directeurs de tout ce qui va dérouler. Tout découle de cela. Premier postulat, il n'y a aucune gloire à être cela. Donc, évolution au mérite. Deuxième postulat, l'absolu émet des vagues de vie. Ces vagues de vie deviennent des éternels pèlerins à tout jamais, et ce, à l'infini, du temps et de l'espace. Troisième postulat de l'absolu, les vies plus avancées incluront dans leur manifestation les vies plus jeunes. Et quatrième postulat, la loi d'équilibre ou loi d'harmonie ou loi de rétribution ou loi de karma. À partir de ces postulats, nous rentrons dans la manifestation et en conséquence l'existence. Toujours le côté riche de la langue française, existence. Ce qui veut dire que tout sort de l'absolu, tout retourne à l'absolu. Ensuite, selon l'évolution des vies, l'espace et le temps sont relatifs. Quand je dis l'espace, bien évidemment, j'entends par là l'espace dans sa dimension abstrait, potentiel, absolu. J'explique pour que ça vous paraisse assez clair. Il y a trois dimensions pour l'être humain, quatre dimensions si l'on tient compte des éthers, cinq dimensions si l'on tient compte des plans subtils. Et c'est en cela, si vous voulez, que je fais allusion aux espaces infinis. Au-delà du plan physique cosmique, vous rentrez dans une autre dimension encore. C'est ce qu'il faut bien comprendre. L'espace et le temps vont dans l'infini. Mais ils sont relatifs. Je veux dire par là que une seconde du temps terrestre n'est pas du tout une seconde du temps cosmique. Et bien évidemment, ça a prêté à confusion quand on a évoqué que ce monde a été créé en 7 jours. 7 jours cosmiques, ce n'est pas 7 jours terrestres. Puisqu'une seconde cosmique, c'est 100 000 ans terrestres. Alors, l'absolu va donc émettre des vagues de vie, mais nous devons retenir qu'il y a à travers tous les univers en manifestation qu'une seule vie. Que toute la manifestation va reposer sur des combinaisons de vie entre elles, et bien évidemment de vie plus ou moins avancée dans l'évolution. Ce qui veut dire qu'une vie plus âgée inclura dans sa manifestation des vies plus jeunes, à différents niveaux. Un règne est par conséquent un composite de vie. Alors cela veut dire qu'une vie plus avancée a en elle, dans sa manifestation, des vies plus jeunes. Et par définition, par la loi d'équilibre, elle en a la charge. Puisqu'en fait, le principe sera que la vie centrale a à faire évoluer à son niveau les vies mineures qui constituent son monde de manifestation. Nous devons appréhender la manifestation, à savoir les règnes microcosmiques, trois règnes, qui comprend les particules, les ions, les électrons et les atomes. Ensuite, vous avez les règnes de la nature, minérales, végétales, animales, quatrième règne dit humain. Mais à ce stade, le règne humain est encore un règne de la nature, donc un règne lunaire. Puis vous aurez le règne spirituel, le règne divin et le règne cosmique. Et au-delà, à l'infini, des champs d'évolution. Mais retenons que l'absolu, entre guillemets, dit « ayant créé ces univers d'une poussière de moi-même, je demeure ». L'existence, la manifestation est par définition illusion, puisque ce n'est pas la réalité. À partir des postulats, vous voyez qu'en fait, ces postulats régissent l'évolution de la manifestation des vies. Et si je vous ai évoqué, ou si Cléa vous a évoqué au début l'astrologie sacrée, eh bien c'est parce qu'en fait, en parallèle à ce que je peux vous évoquer aujourd'hui, vous voyez qu'il y aura donc une science qui va suivre et observer et prévoir toute la manifestation. Alors, dans cette manifestation, nous devons observer ce champ d'évolution à partir de la dimension de la vie au règne humain, c'est-à-dire à notre niveau. Ce qui veut dire que l'absolu est par définition ténèbres. Mais entre cet absolu à jamais inaccessible pour quelque vie que ce soit, en évolution, je dis bien, eh bien, il y aura ce qu'on appelle les ténèbres lumineuses. Les ténèbres lumineuses recouvrent en fait toutes ces grandes vies, passées au-delà du règne humain, donc du quatrième et du cinquième règne, et qui, dans leur évolution, recouvrent le règne divin, le règne cosmique. Ils sont comme un horizon devant nous, et au fur et à mesure que nous avançons, eh bien, ces ténèbres deviennent lumineuses. Mais ce processus est à jamais éternel dans la marche des vies en avant. Ce processus, lorsque l'être assume sa marche en avant et par conséquent veille à réussir sa vie, eh bien ce processus, il est à la fois mené par l'être, mais qui lui-même est attiré par la vie plus grande. Et nous ne devons pas perdre de vue que ce processus se déroule, à savoir que celui en qui nous avons la vie, le mouvement et l'être, a lui, à son niveau de contrat de vie, de nous faire avancer là où était son point de départ dans l'évolution supérieure. Bien, si vous voulez, c'est le processus permanent entre la vie centrale et les vies mineures. Pour parler de l'homme, à l'entrée du règne humain, la vie va se manifester en tant qu'homme animal. La traversée de la moitié du règne humain, qui va être le quatrième règne, vous allez avoir la réponse à l'énergie d'intelligence et ce qui va se traduire chez l'homme par la capacité d'intellect. Et ensuite, il va répondre à une énergie autre qui est l'énergie d'amour-sagesse. À partir de ce moment-là, il va rentrer en capacité de conscience pour répondre à l'énergie de celui en qui il se trouve. À notre niveau, nous avons dans nos différents corps des vies mineures qui sont nos élèves et qui attendent d'être impressionnés, sensibilisés par notre énergie. L'usage des énergies que nous ferons va faire avancer ces vies mineures. Ce qui veut dire que toutes les vies mineures qui constituent notre corps physique, notre corps émotionnel, notre corps mental, sont nos élèves. Alors la particularité pour l'être humain, c'est déjà d'en prendre conscience. Parce que tant qu'il l'ignore, tant qu'il n'a pas déterminé la chose, eh bien il est dépendant de ses vies mineures. J'illustre un peu, c'est pour vous montrer les différentes combinaisons des vies. Alors, vous avez des vies grandioses qui aujourd'hui donnent vie à un système solaire, un système cosmique, un univers. Eh bien, ils sont passés bien évidemment par le règne humain en son temps, il y a des milliards d'années. Et aujourd'hui, ils orchestrent la manifestation de l'existence de tous ces mondes de dimensions macrocosmiques, en faisant progresser en fait toutes les vies dont ils ont en charge vers une marche en avant, vers les ténèbres lumineuses. Ce qui veut dire que dans la traversée du règne humain, pour reprendre le niveau de l'homme, eh bien il doit d'abord appréhender l'énergie d'intelligence, et puis il appréhendra l'énergie de juste relation, et puis il appréhendra l'énergie du bien de l'ensemble. Alors, je reviens à toutes ces vies. J'ai extrait de Bélé deux tableaux. L'un, c'est, vous l'avez en marge, les 12 hiérarchies créatrices. Et l'autre, c'est un extrait également, la relation des triangles corps éthérique, mais ça a été plus développé sous l'aspect âge d'évolution. On va prendre le tableau des 12 hiérarchies créatrices. La conduite de la présentation que je développe, elle va du haut vers le bas, elle a des inconvénients et elle a des avantages. L'avantage, c'est qu'on part de la source, donc de l'absolu, et on descend jusque les champs de manifestation. Les inconvénients, c'est qu'on part des ténèbres lumineuses. Donc cela veut dire qu'il y aura quelques difficultés de compréhension que l'on pourrait présenter comme un pulse éclaté, c'est-à-dire que c'est un pulse à la fois à 7 dimensions, mais sous un autre aspect, au fur et à mesure, ce pulse va se remplir et va s'ordonner, et par conséquent, ça deviendra de plus en plus accessible. Donc ne soyez pas étonnés si au début c'est un peu nébuleux parce que chacun, comme on dit, a des éléments du pulse mais n'a pas forcément tous les éléments. Quand on parle des 12 hiérarchies créatrices, on aborde en fait des domaines très hermétiques. Simplement, je vous ai donné le tableau qui au fur et à mesure prendra forme de compréhension. Il n'en reste pas moins que nous sommes dans la définition de 12 vagues de vie. Nous ne parlons pas de manifestation comme telle, nous parlons de racines de vie. Je vous rappelle que toute vague, donc toute vie qui est émise, qui sort de l'absolu, a une racine de vie. Et il n'y a qu'une seule vie. Simplement, il y a des niveaux de progression de ces vies. Alors nous sommes là, si vous voulez, dans un paradoxe, à savoir que nous sommes dans l'absolu relatif, puisque il n'y a qu'une seule vie, et nous avons 12 hiérarchies de vie. Simplement, ces vies sont une dans leur essence potentielle, elles ne le sont pas au stade de réalisation. Alors, vous verrez que curieusement, plus une vie est avancée, plus elle a notion qu'il n'y a qu'une seule vie, et que la moindre parcelle de vie est sa vie. Ce qui veut dire que, en nous, à notre source de vie, la vie qui est en nous est la même que cette vie qui donne la vie à cet univers, puisque cette vie a pulvérisé sa vie pour permettre aux vies de se manifester et de progresser. J'insiste sur la notion vie par rapport à ce qui sera sa manifestation, qui elle sera toujours triple, à savoir esprit, conscience, forme. Je reprends, toute vie a sa racine de vie, esprit. Dans la notion d'esprit, une dualité, à savoir la vie immanente et la vie transcendante. La vie qui est en nous est immanente, mais nous sommes nous-mêmes dans une plus grande vie qui nous donne la vie, et c'est la vie transcendante. Conscience, depuis le petit atome jusque l'atome cosmique, il y a des niveaux de conscience. Le repère, dans l'évolution, le règne humain est le règne médian entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. Et la caractéristique de ce règne, de ce quatrième règne, c'est l'individualité de conscience. Ensuite, vous avez la forme, le véhicule de manifestation, qui est toujours lié à l'aspect mère et donc l'adaptabilité. Le véhicule s'adapte aux conditions environnantes. Mais revenons sur le fait que toute forme intègre en elle une vie, une conscience. Cela ne veut pas dire soit conscience, mais niveau de conscience. Hein, le scientifique aujourd'hui, il y a longtemps, a découvert que l'atome avait 36 000 fonctions mémoire, selon son environnement. Vous avez donc là deux tableaux, je suis sur les hiérarchies de vie, hein, vous avez deux tableaux. Vous avez le tableau d'en bas, on va commencer par celui en bas, le plus grand, qui est en fait les vies qui se manifestent à l'intérieur du plan physique cosmique. Ce champ de manifestation qu'on appelle le plan physique cosmique, le tableau ici en fait recouvre l'ensemble des sept plans du plan physique cosmique, tout en bas. Le septième plan en bas, c'est ce qu'on appelle le globe terrestre, le plan terrestre. Quelle est la différence entre plan et globe ? Bien, un globe, ça concerne particulièrement une planète, alors qu'un plan, ça va prendre en considération tous les globes de toutes les planètes sur le même plan. Donc quand vous voyez un globe céleste, en fait, cela veut dire qu'il est en manifestation terrestre. Mais je parle là des planètes, parce que si on plante les étoiles, là, la source, elle peut être dans la cinquième dimension. Donc très haut au niveau réalité de plan. Alors, si vous regardez ce tableau, on va partir du côté droit pour aller vers le côté gauche, et vous voyez que c'est numéroté du bas vers le haut. Cela veut dire que nous sommes sur le plan terrestre numéro 1, astral 2, mental 3, bouddhique 4, atmique 5, monadique 6, adique ou logoïque 7. C'est les plans. Ne perdez pas de vue qu'un plan, ça recouvre les robes de la mer et que la mer exprime des niveaux de conscience. Il y a des repères à ne jamais perdre de vue si l'on veut avancer plus clairement. N'oubliez jamais, la manifestation est une pensée concrétisée. Qu'est-ce qu'une manifestation ? C'est une projection du feu du mental d'une source cosmique, donc d'un être cosmique, qui pénètre les aspects de l'absolu, c'est-à-dire l'espace abstrait absolu. Je vous rappelle les aspects de l'absolu qui peuvent être approchés. C'est la durée, L'absolu, c'est la durée, donc ça n'a ni commencement ni fin. C'est l'espace abstrait absolu, donc il n'y a aucune limite à l'absolu. Et c'est la conscience absolue. Mais je répète, ce n'est pas un être. Quand il y a manifestation, nous avons donc une très grande vie évoluée bien au-delà du plan physique cosmique, qui, après avoir réfléchi en réponse au contrat de vie de sa racine de vie, va projeter sa pensée dans les robes de la mer. Donc, l'espace abstrait absolu. Je joue avec les mots, c'est pour faire tomber les barrières qu'elles représentent.
Les robes de la mer, c'est toutes les possibilités de manifestation.
C'est l'espace abstrait absolu. Alors, pour qu'on approche bien le sujet, il faut saisir que si on veut parler de l'espace abstrait absolu, il faut aller rejoindre une inaccessible vie grandiose qui donne la vie à des espaces en manifestation qui, pour nous, sont absolument inenvisageables quant à leur dimension. Mais il n'en reste pas moins que quand il y a une immense vie qui est en manifestation, à ce moment-là, il n'y a plus l'espace abstrait absolu, il y a les robes de manifestation. Est-ce que vous voyez la nuance, hein? C'est donc que nous avons affaire pour nous, je vais employer des termes paradoxaux, mais qui sont, je pense, à l'usage révélateur, nous sommes dans l'absolu relatif. Pour nous, c'est un absolu, mais ce n'est qu'une poussière par rapport à l'absolu. La nuance, c'est que nous rentrons, la manifestation intègre la notion de fils, liée à une vie qui est en réalisation, hein, sortie de l'absolu, qui peut donner vie à des myriades d'univers. Mais pour nous, c'est, comme on dit, c'est au-delà. Là, on n'est plus dans les ténèbres lumineuses, on est dans les ténèbres, et donc on est dans des champs de compréhension inaccessibles. Il n'en reste pas moins que le cercle infranchissable qu'il trace par sa pensée dans l'univers, dans l'espace abstrait absolu, crée des robes, c'est-à-dire des niveaux de conscience. Bon. Et bien sûr, ce processus se répète à l'infini, l'infini étant des myriades de vies à différents stades d'évolution qui rentrent dans la manifestation. Parce que vous voyez, c'est vertigineux, mais c'est pour vous montrer comment s'orchestre l'ensemble. Alors, nous avons le plan physique cosmique. Notre plan terrestre, c'est le plan 1 en bas. Nous avons 7 plans. Nous sommes dans le plan physique cosmique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes dans le corps physique de vie cosmique. Au même titre que nous, tout en bas, dans le plan 1, nous avons notre corps physique qui est double. Et bien là, nous avons le corps physique de vie planétaire et au-delà qui ont pour les 1, 2, 3 leur corps dense, 4, 5, 6, 7 leur corps éthérique. Hein, notez bien la nuance. 1, 2, 3 c'est le corps dense planétaire, 4, 5, 6, 7 c'est le corps éthérique.
Hein, 3 c'est là ici.
Hein, pour bien séparer le corps dense et le corps. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la manifestation où nous sommes, le plan physique, eh bien, en tant que corps physique, nous sommes dans la matière dense planétaire. Sur le plan astral, nous sommes dans l'eau planétaire. Sur le plan mental, nous sommes dans le feu planétaire.
Sur le plan 7, on est encore dans le corps éthérique.
Tout en haut? Oui. Le premier éther. Après, nous passons dans le plan astral ou mental cosmique ou au-delà.
Il y a déjà une bonne imprégnation, déjà.
dans son plan, sur le plan 7, il y a déjà une bonne appréhension de structure.
Quand tu sais qu'il y a la concordance numérique relationnelle, dans le plan 1 tout en haut, nous avons une concordance avec le septième sous-plan du premier plan cosmique. Il n'y a pas de séparation. C'est pour la compréhension mentale qu'il y a séparation. C'est le mental humain qui, pour comprendre les choses, est obligé, lui, de couper.
Hein?
Non, mais c'est la même chose que les notes de musique. C'est pareil. Oui, puis il faut savoir que dans une note de musique, tu as l'octave et l'octave reprend les autres. Nous sommes au commentaire. Donc deuxième colonne sur la droite. On part du bas. Le plan 1 d'en bas, c'est lié à l'aspect Terre. En d'autres termes, la matière dense planétaire, qui, pour rebondir sur le sujet, aura en elle l'aspect eau, l'aspect feu et les éthers. Donc tout est dans tout. L'astral, parenthèse de l'astral. L'astral n'était pas conçu dans le plan divin. L'astral est une excroissance inférieure du mental. Les bandes inférieures du mental. La bande inférieure du mental était liée à l'aspect sensibilité. Mais quand il y a exagération, puis transformation de l'outil du moyen en une fin, à ce moment-là, la sensibilité développe tout l'aspect émotionnel, affectif. Et c'est un développement exagéré de la fonction qui devient une fin. Ce qui a entraîné sur notre planète cette bande de pollution énergétique qui a créé un voile d'illusions et de mirages entre les plans supérieurs et le plan terrestre.
Ça veut dire que ça n'existe, c'est pas un plan qui existe en soi, c'est un plan qui vient d'une création. Le mental a concrétisé
De toutes les vies humaines. C'est tout ce que les vies humaines, depuis qu'elles errent, a déversé comme pollution, comme illusion, comme mirage dans la manifestation de la vie. Et qui a créé un monde d'illusions et de mirages. Kama Manas, pour employer un terme oriental. Et comme j'ai pu l'évoquer, vous avez aujourd'hui une tentative pour créer à l'opposé du plan mental, entre l'âme et le plan mental concret, ce qu'on appelle l'hypermentalité. Donc c'est la bande opposée à la partie inférieure du mental concret et qui serait en train de se développer. Mais je vous rassure, ça ne se passera pas. Mais si ça s'était passé, cette humanité était condamnée. Parce que quand on verra que les êtres humains, leur réalité d'existence, c'est le plan bouddhique, le quatrième plan, ça c'est leur réalité, et qui se couperait à ce moment-là de leur réalité, les lunaires, leur vie mineure étant complètement abandonnée à leur triste sort. Ça peut vous paraître ardu. Mais je vous ai prévenu, laissez venir et tout ça prendra sa place au fur et à mesure.
Oui, parce que les vies supérieures ne vont pas vous permettre cette situation.
Les vies supérieures respectent d'abord les lois de la vie. Et la loi cosmique dans laquelle nous sommes, et qui est la synthèse de toutes les autres, donc je parle de loi des sept univers, n'est-ce pas? C'est la loi de liberté. Ce qui veut dire que elles ne peuvent en aucune façon imposer des lois. Elles attendent, et notamment le Père, attend que l'on aime ces lois. La loi, si vous voulez, de réponse à ce que vous évoquez en disant, mais les vies supérieures, comment elles appréhendent la manifestation des vies mineures, c'est la loi de karma, d'équilibre. qui veut dire que ben, les vies mineures, elles bobinent, elles auront à débobiner. Oui, mais ça n'est pas, si vous voulez, une loi imposée. Quelle est la loi de karma? C'est quoi la loi de karma? C'est la nature de l'être en qui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Qu'est-ce que le karma? C'est ça. C'est sa nature à lui, c'est ses champs de conscience. Et tant qu'on n'est pas dans ces champs de conscience qui sont pour nous un absolu de beauté, de pureté, de perfection et d'amour, eh bien, on a la loi d'équilibre. Dès l'instant où l'on sort de cette nature, si vous voulez, on s'écarte, le balancier est inscrit de l'autre côté pour retrouver l'équilibre. Mais il y a une nuance entre imposer des lois et attendre que l'on aime ces lois. Ben, vous le faites, vous le savez, en tant que parent. Hein. En tant que parent, si vous voulez agir avec sagesse, vous ne serez pas en main de fer, vous serez en main ferme, mais qu'est-ce qui est important? Il est important, c'est que l'enfant adhère au principe d'équilibre et de justice que vous avez, et non pas lui imposer. Si vous lui imposez, il dérobera. Vous n'avez jamais observé ça autour de vous? Imposer une loi à un enfant qui n'est jamais un jeune véhicule avec un être aussi vieux que vous, hein? Pas en âge d'évolution, mais en âge de vague de vie, à un moment donné, il dira, on m'impose, je dérobe, parce que je ne suis pas libre. Donc c'est un juste milieu à avoir.
Les lois cosmiques dont vous parlez sont particulières au monde incarné terrestre,
quand vous avez une loi cosmique, cette loi, c'est la nature instinctive d'une grande vie cosmique. C'est sa nature. Au même titre que vous allez dire, bah, un tel, il vit en sagesse. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire qu'il déroule sa vie instinctivement avec intelligence et juste relation. C'est ça la sagesse. Hein? La sagesse, c'est les justes relations et l'intelligence. Bah, c'est sa nature. Mais c'est instinctif. Bon, c'est-à-dire qu'il l'a intégré et il fonctionne automatiquement comme ça. Eh bien, une loi, c'est ça. Une loi de la vie a des principes qui sont tout à fait intégrés. L'homme actuellement essaye d'intégrer un principe de celui qui nous donne la vie, c'est l'intelligence. Le seul problème, c'est que lui a déjà effectué ça dans sa vie passée, dans sa vie cosmique passée. C'est sa nature, si vous voulez. Aujourd'hui, il est en quête de répondre à une nature plus avancée, la nature du logos solaire, qui lui a instinctivement la nature d'amour, sagesse en lui. Cet être logos solaire essaye de répondre à une nature instinctive cosmique qui est supérieure et qui est la volonté du bien de l'ensemble. Vous voyez ? Donc, quand on arrive au 7 univers, c'est la loi de liberté. La loi de liberté, c'est quoi? Eh bien, c'est d'être en indifférence divine. Ça veut dire ne jamais céder aux vies mineures dont nous avons la charge. Alors, bien sûr, à notre niveau, nous répétons de façon inférieure et relative à ces impressions qui nous viennent. Alors, nous étions au feu du plan mental. Là, vous avez une concordance entre le feu et le mental, puisque le mental, l'énergie du mental, c'est de l'électricité, c'est du feu. Je fais une parenthèse, mais ça vous servira peut-être de repère. Quand un être humain est encore fort attaché, fort pris dans le plan astral, il a beaucoup de présence d'eau dans le corps. Quand il est en prise avec le feu du mental, il est desséché, comme un sarment de vigne. Et l'équilibre est entre les deux. Ce que nous devons saisir du plan mental, mais on le verra ultérieurement, c'est qu'il a trois bandes. Le mental concret, l'âme et le mental supérieur, autrement appelé manas. Le mental concret est le mental composite de toutes nos vies mineures. Vous avez là une notion clé, capitale, pour faciliter la compréhension du rôle de l'être humain vis-à-vis des vies mineures à qui il donne la vie. Le mental concret est le mental composite de toutes nos vies mineures, dont la caractéristique d'expression est le désir. Ouais. Nos vies mineures expriment leur volonté par le désir. C'est pour ça que le grand sage, il y a 2500 ans, a lancé le message à l'humanité, cessez le désir, c'est la cause de la souffrance. Alors, il faut faire attention parce que tout est équilibre. Et par conséquent, il ne s'agit pas de vivre en ascète, il s'agit de ne pas céder aveuglément aux vies mineures, en d'autres termes, ne pas en dépendre. Mais, en contrepartie, nous avons en charge le bel équilibre de nos vies mineures. J'attire à votre attention parce que les premières réponses des êtres qui s'éveillent à l'aspiration verticale, c'est une réponse souvent exagérée. Mais ils sont encore bien souvent dans la non-dépendance. Mais l'ascétisme n'est pas l'équilibre. C'est un autre excès. Ah oui, c'est un autre excès. Nous avons en charge nos vies mineures. Nous avons en charge nos vies mineures. Ni à l'excès, ni en manque. J'ai expliqué précédemment qu'en fait, nous étions une unité centrale dans des mondes de manifestation qu'on appelle le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental. Ces mondes de manifestation sont composés de vies mineures, de cellules et autres, qui ont répondu à notre manifestation le moment venu, quand nous sommes venus en incarnation. Ces vies mineures ont un champ de conscience et le mental concret, notre intellect, si vous voulez, dont la fonction au passage est essentiellement mémoire, eh bien, c'est le mental composite de toutes ces vies mineures qui, dans notre monde de manifestation, transmettent leur volonté par le mental concret. Mais ça va être essentiellement désir. Et si vous regardez, ce monde aujourd'hui, il marche beaucoup au désir. Si vous voulez, ce que j'essaye de faire passer, et bien sûr que ça s'en aille comme un vol d'oiseau, c'est le fait que l'être humain n'est pas un bloc unitaire. C'est une unité centrale qui doit harmoniser des myriades de vies plus jeunes. Je vais vous donner des éléments paradoxaux. Qui du minéral ou de l'homme est le plus vieux? Ah bon? Et la vie qui étant passée par le minéral a traversé le végétal, a traversé l'animal, est arrivée au règne humain. Elle est plus jeune que le minéral? La vie continue sans arrêt. Pourquoi voulez-vous que la vie s'arrête dans le minéral? Ne pensez pas forme, pensez vie qui s'exprime par le minéral. D'accord? Bon. Eh bien, la vie, si vous voulez, en existence, donc en manifestation, est potentiellement égale, puisqu'elle sort de l'absolu. Donc toute vie, quelle qu'elle soit, nous sommes potentiellement égaux. Mais nous ne le sommes pas en réalisation, de par le fait que venir à l'existence nous permet des expansions de conscience. Nous sommes plus loin de la source que le minéral. Donc le minéral est riche de sa potentialité, mais faible en conscience. Et là, vous avez le point capital du respect du minéral. Parce que il ne faut pas exploiter, abuser de sa virginité. Qu'est-ce que le minéral ? C'est la vie du Père, donc de cette vie cosmique qui donne la vie à la planète, et qui est dans les robes de la mer. Parce que cet être déroule sa manifestation à travers un temps qui pour nous est infini, mais il doit pour ce faire porter en manifestation les vies qui elles-mêmes traversent les règnes. Donc, la vie dans le minéral, c'est la vie du Père, de l'homme céleste, dans les robes de la mer. Le jour où l'homme arrivera à ce champ de conscience, même chose pour le végétal, même chose pour l'animal. Est-ce que vous voyez ce que ça engage comme champ de conscience et de respect, puisque tout est vie. Simplement, par le premier postulat de l'absolu, il n'y a aucune gloire à être cela. Deuxième postulat, évolution au mérite. Donc, nous, vie au stade humain, nous avons en charge des myriades de vies qui nous mettent en relation en tant que conscience, par notre corps éthérique avec le minéral, par notre corps physique éthérique avec le minéral, par notre corps astral éthérique avec le végétal, par notre corps mental avec concret avec l'animal, en tant qu'âme, c'est-à-dire être permanent qui traverse le règne humain, nous sommes nous-mêmes à ce moment-là l'électron des vies supérieures. Nous ne sommes plus l'atome, nous devenons l'électron. Et nous entrons dans des influences d'énergie qui ont pour appellation le vrai, le beau, le bien, le pur. C'est ce qui nous absorbe vers la nature de celui qui nous donne la vie.
J'ai une question qui me taraude l'esprit.
Ben on va la buriner.
Pourquoi l'absolu a commencé la manifestation par le minéral ?
Quand ? L'absolu n'a ni commencement, ni fin.
Êtres, en passant par la manifestation du minéral, ensuite végétal, etc.
Non, l'absolu expulse, d'accord, des vagues de vie. Mais elles ne sont pas tout de suite sur le plan terrestre. Elles vont tomber en involution.
D'accord, donc c'est bien, effectivement, une parabole, c'est pas...
Si tu veux, elles viennent d'une source qui est hors limite de tout. Exit. Et elles sont si près de l'absolu que, pour l'instant, il n'y a pas de robe. Tu vois ? Donc, non manifesté. L'Orient appelle Moula Prakriti, c'est-à-dire des ténèbres, tu vois, mais qui sont tellement lumineuses que, voilà, mais vu d'en bas, c'est des ténèbres. Bon. Et donc, il y a le chemin d'involution jusqu'à arriver à un point zéro où ces vies ne répondent plus à rien. Quand vous avez sur votre tableau les vies aveugles, tout en bas là, mais ces vies aveugles, elles répondent en tant que ion. Mais il y a des vies qui sont encore plus bas au sens où elles ne répondent quasiment à rien. Il faudra attendre une autre manifestation pour qu'elles commencent à répondre à quelque chose. Voilà. Mais, voilà, oui, c'est-à-dire, et ça, c'est pour montrer l'espace au mérite. Partir du néant. Partir du néant. C'est-à-dire de la conscience zéro.
Mais ces vies ne correspondent plus à rien en termes de conscience.
Non. Quand la vie, hein, la vague de vie, est allée, on va dire, au bout de l'involution. Donc elle s'éloigne le plus loin possible de sa source. Elle arrive au point zéro de conscience. Même pas celle d'une particule.
Mais alors quelle énergie pour avoir une densité si intense, une densité si intense.
Oui, mais la respiration de la vie est telle que... Parce que ce qu'il faut pas perdre de vue, c'est que il y a un principe derrière tout ça, c'est que par le phénomène de l'acquisition de puissance de conscience, la vie crée. La vie crée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, la vie génère en permanence une création à l'infini, puisque Il y a un tel espace abstrait absolu qu'on n'en atteindra jamais les confins. Ce que l'être humain doit un jour saisir, c'est qu'en permanence, de par le fait d'atteindre à la soi-conscience, hein, qui est le milieu entre, on va dire, l'inconscient, eh bien, il accède à sa capacité de création de vie. Il génère des micro-mondes. Une pensée est un micro-monde. C'est-à-dire qu'elle appelle des vies en involution qui commencent à répondre à l'attraction. Et ces micro-mondes sont à jamais maintenant des éternels pèlerins. Ah bah oui. Quand tu réunis les trois aspects dans une vie, la vie est créatrice et elle est en expansion permanente et continuelle. L'être humain qui a la soi-conscience a la capacité, même s'il ignore, de créer. À telle enseigne que par les lois justement de la vie, il est maître désormais de son futur. Il crée son futur. C'est pour ça que rejoignons celui qui nous donne la vie, parce que lui, à son niveau, ne trempe sa plume que dans le vrai, le beau, le bien, le pur. Mais il attend qu'on aime ses lois. Il n'y a qu'un interdit dans l'univers. Il est interdit d'interdire.
Hein? On crée bien nous-mêmes, on croit qu'il y a un mal positif ou négatif.
Mais tu es la vie. Tu es la vie. L'être, s'il est conscient, il se regarde dans la glace et il dit « Je suis la vie ». Bon, s'il se prend la tête, il va dire « Je suis Dieu ». Bon, mais autrement, s'il dit « Je suis la vie », ça, à mon sens, ça repose sur de la simplicité, voilà. Et simplement, je suis maître de mon destin. Et donc, quels vont être mes repères? Mes repères, eh bien, c'est que je dois agir donc avec intelligence. Agir, ça veut dire m'activer. Mais je ne suis pas seul dans l'univers, qui est la vie, c'est des centres d'énergie qui sont partout et dont la circonférence est nulle part. Ce qui veut dire qu'il faut que j'appréhende de justes rapports avec mon environnement. Ça s'appelle l'amour, sagesse. Mais dans sa dimension supérieure, amour, ça veut dire aider l'autre à devenir meilleur. Parce que nous sommes tous dans un monde et par conséquent, tant que les autres vont faire pipi dans le bocal, ça va me gêner, moi. Parce que la tâche sera plus dure. Donc je suis hautement, mais dans le bon sens du terme, égoïste en disant j'aide les autres à devenir meilleurs. Et ça n'a de sens que si je conçois le bien de l'ensemble. Un monde ne peut pas être un monde de beauté, ne peut pas être un monde de perfection, si on n'a pas pensé le bien de l'ensemble. C'est des remarques qui, je pense, sont simples, mais ça fait des milliers d'années que l'homme les cherche. Pardon ?
Vu la complexité actuelle qu'on a créée, il faut tout défaire.
Oui, parce que ce que vous entendez dans complexité, c'est l'aveuglement de l'homme qui fait qu'aujourd'hui, ça tire dans tous les sens. Si vous voulez, c'est le problème qui résulte de notre évolution, c'est que pour le règne humain, aujourd'hui sur cette terre, l'individualité de conscience, il la traduit en séparativité. Et c'est là où est la difficulté. C'est que la séparativité, c'est la seule chose qui n'existe pas. Regardez. Là, nous respirons le même air. Donc nous ne sommes pas séparés. D'autant que vous savez, l'air, si on en manque, il nous faut que quelques minutes pour perdre la vie. Hein ? Mais nous échangeons en permanence au niveau énergétique. Ce que nous faisons, c'est qu'en ayant une réflexion commune, eh bien, nous rayonnons sur le plan mental. Et comme le plan mental, c'est le feu, mais aussi la lumière, eh bien, on peut supposer que, comme d'autres dans le monde, cette lumière impressionne. Ce qui est souhaitable, eh bien, c'est que, en fait, nos pensées, au fur et à mesure, et donnant des repères d'axe et de direction, eh bien, permettent aux êtres humains d'y voir clair. La fonction fondamentale du cinquième règne, c'est de rayonner. Et dans rayonner, vous avez la lumière. Or, pardon ? Ben oui, mais parce que, excusez-moi, celui qui donne la vie à la planète, eh bien, sa manifestation, son expression de vie, c'est les globes qui lui servent de plan de manifestation, et puis aussi toutes ces vies qu'il a attirées dans son champ de manifestation, et pour lequel, en ce qui nous concerne, nous avons ressenti l'opportunité de le suivre. Il faut bien comprendre que quand lui s'est projeté, il a émis tout un dessin, et ce dessin a attiré les êtres que nous sommes pour notre propre évolution. Et tout ça s'inscrit dans quelque chose d'encore plus vaste, à savoir le dessin de la vie pour elle-même. Il faut bien savoir, si vous voulez, qu'en tant que vie sur le plan terrestre, excusez-moi, mais nous sommes à bord d'un scaphandre. Par rapport à la pensée et à notre richesse de pensée, on aimerait bien, comme on dit, se déplacer sans avoir à prendre un véhicule. Donc, essayez de comprendre. Alors, ça veut dire qu'il y a forcément une réponse devant nous, dans notre futur, à cela, puisque, en fait, notre véhicule n'est pas encore adapté à ce qu'on voudrait. Mais ça implique que nous ayons des vies mineures suffisamment élaborer, avancer pour permettre cela. Donc tant qu'on va se plomber dans la matière en générant de l'énergie lourde, eh bien on ne peut pas espérer que nos vies mineures qu'on attire quand on revient nous disent oh, « Attendez, nous on n'a pas rempli encore notre fonction là parce que vous nous handicapez. » Au même titre que le Père, celui qui donne la vie à la planète, il a un dessein. Est-ce que vous croyez que ses fils se sont mis à niveau pour répondre à ce qu'il attend ?
Certains.
Oui, j'entends, mais il ne peut pas encore dire c'est conforme à ce que j'attends. Alors le problème, c'est que